Je voudrais d'abord dire le plaisir qui est le mien à me trouver parmi vous dans ce lieu tout à fait somptueux, dont je fais compliment vigoureux à notre hôte. Le plaisir est également pour moi de venir parler devant Romain Arnoux de lui-même et de son œuvre. Et je tiens à dire que je lui sais gré d'avoir lié en moi, d'avoir permis que je lie en moi la lecture de son livre et le sentiment de plaisir à la lecture de ce livre. Je comprends parfaitement ce lien parce que c'est aussi ce qui définit Romain Arnoux que de lier l'exercice de la responsabilité et l'épreuve d'un sentiment de plaisir. Romain Arnoux récuse deux modes de parler, en particulier du droit, à savoir le mode purement descriptif, narratif, ou qui croit qu'il se contente de décrire en faisant l'éloge comme motivation du comportement des hommes, du sentiment de l'utilité. Il récuse en effet une perspective simplement utilitariste qui voudrait définir le prix de l'existence humaine par l'épreuve de son utilité ou des différents plaisirs qu'elle peut susciter. Il récuse ce qu'on a appelé à notre époque le conséquentialisme, à savoir cette considération qui motive l'existence humaine par la seule recherche et conquête des sentiments d'agrément ou des sentiments de plaisir qui ont été traditionnellement défendus en philosophie par ce qu'on a appelé les utilitaristes. Mais Romain Arnoux récuse tout autant l'opposé idéal ou idéal de l'utilitarisme empirique ou sensible, à savoir le normativisme. Il considère que ce n'est pas la norme et l'obéissance à la norme et aux normes qui fait le prix de l'existence. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas considérer qu'il est surtout, au pied de la lettre, un kantien. Voyez, pas d'aplatissement du réel à la simple utilité, mais pas non plus d'exaltation de l'idéal réduit à un simple idéal et plus précisément à une simple norme. Donc il faut essayer de réaliser en soi un état d'esprit qui se situe au milieu du simple plaisir utilitaire et de l'obéissance à la norme. Un entre-deux qui marie en lui la réalité est l'idéalité à travers une réalité qui vaut déjà par elle-même, qui n'est pas un pur fait, et une idéalité qui n'est pas simplement idéale mais qui a déjà une certaine réalité. Et ce mixte de réalité et d'idéalité, c'est ce qu'on peut appeler la valeur. Dire qu'une chose vaut, ce n'est pas nier sa réalité ou son idéalité, mais c'est affirmer qu'elle est un réel qui est déjà en lui-même un idéal et un idéal qui est déjà en lui-même un réel. C'est-à-dire, aucune des deux abstractions que sont d'une part l'utilité la plus plate et d'autre part l'idéalité normative. Essayer de se situer au niveau de l'entre-deux du mixte ou du concret et cet entre-deux, ce mixte, c'est la valeur, dont l'assomption, vivre selon les valeurs, vivre à travers les valeurs, c'est ce que Romain Arnoux, si je l'ai bien compris, appelle la vertu. La vertu qui ne consiste ni à s'agenouiller devant la pure facticité, ni à s'exalter au nom de la simple normativité, mais qui reconnaît que ce qui existe a déjà en soi-même du sens et un sens pratique et une valeur, et que ce qui doit être apprécié, ce en quoi on peut trouver déjà une anticipation de la norme, c'est précisément ce qui s'appelle la valeur. Donc, apprécier les valeurs et les assumer à travers la conduite de la vertu. Il s'agit de comprendre qu'au fond, cette unification entre le fait et la norme. Qu'est la valeur ? Cette unification ne constitue pas simplement le contenu d'un programme dont la réalisation serait à accomplir et qui ne serait pas déjà existant d'une façon ou d'une autre dans l'homme qui le reconnaît. Et c'est pourquoi Romain Arnoux considère que l'existence humaine la plus immédiate, la plus simple, elle est une existence déjà de la valeur, dans la mesure où vivre pour l'homme et vivre en homme, ce n'est pas simplement s'affirmer soi-même, river en quelque sorte à son propre égoïsme, mais c'est aussi affirmer les autres qui, en tant qu'autre, constituent pour moi quelque chose qui a de l'aide parce que je ne le suis pas, quelque chose qui est différent de moi, quelque chose qui me fait sortir de moi, et l'existence humaine est pour lui faite de l'égalité, du sentiment de soi ou du souci de soi, qui est un de ses thèmes favoris, et du sentiment des autres et du souci de l'autre. Donc, perspective optimiste, peut-être, pour moi qui vieillis et qui deviens donc naturellement un peu pessimiste, peut-être utopiste, mais en tout cas, c'est un sentiment, ce sentiment optimiste, qui est nécessaire à la vie et à la vitalité, et il est tout à fait, il est à très juste titre loué et vanté par Romain Arnoux. Donc, un thème, une considération optimiste et optimisante de la vie. Je dois dire d'ailleurs que dans ces deux pôles, du bipôle de l'identité, du sentiment de soi, du souci de soi et du souci de l'autre, il me semble qu'il n'y a pas une simple réciprocité. Et j'insiste là-dessus parce que à notre époque, la réciprocité, l'interaction, l'intersubjectivité est devenue le principe essentiel et dominant, au risque d'oublier l'autre pôle de la vie qui est celui de l'objectivité et de l'objectivation. Je trouve que nous vivons dans une vague de subjectivisme ou d'intersubjectivisme déferlant, à tel point qu'on en vient à penser qu'on rencontre les choses et qu'on atteint vraiment l'objet à travers la simple intersubjectivité. Bien sûr, l'objectif, ce qui est vrai, est nécessairement universel ou universalisant, c'est-à-dire faisant s'accorder les hommes entre eux, permettant leur consensus, leur dialogue, ce consensus auquel certains penseurs actuels attribuent, enfin, une sorte de cime et d'apogée de l'humanité. Je pense en particulier à des gens comme Rawls ou comme Habermas, qui viennent à considérer que la vérité ou l'objectivité est le simple résultat du dialogue et de l'accord ou du consensus auquel peuvent parvenir un groupe d'humains. Je crois que, certes, ce qui est objectif est nécessairement intersubjectif et universalisant, mais je crois que tous peuvent être d'accord et cependant se tromper, parce que l'intersubjectivité, ça ne suffit pas à constituer une véritable objectivité. Alors, je pense qu'il est bon de ne pas considérer que la réciprocité ou l'interaction ou l'intersubjectivité, c'est l'absolu. Voyez ? Et je trouve que notre époque doit réapprendre le sens de l'objectivité, ce sens de l'objectivité qui exige autre chose que l'accord des hommes. L'accord des hommes, le consensus à travers le dialogue dans ce qu'Habermas appelle l'espace public, à distinguer du politique, parce que le politique, ce n'est pas l'intersubjectif. Ce n'est pas l'inter-individuel, ce n'est pas le social ou le sociétal où les individus s'affirment en même temps qu'ils affirment l'universel. Le politique, à la différence du public, c'est une totalité, c'est un tout, c'est une unité qui dépasse la relation en son sein des hommes. Et cette unité, elle est d'abord ce qui s'affirme à travers l'État. L'État est une totalité, on lui reproche d'être d'ailleurs toujours sur la voie du totalitarisme, parce qu'il est une totalité qui veut, en quelque sorte, surplomber et dominer les individus. Et la réalité de l'État se manifeste de façon aussi naturelle dans la mesure où il s'incarne dans la nation. Alors, je trouve qu'à notre époque, on oublie trop cette existence de la totalité sous forme étatique ou nationale et qu'on s'en remet aux vertus de l'intersubjectivité pour assurer la coexistence des hommes. Et ce que j'apprécie chez Romain Arnoux, c'est que précisément, il a saisi, peut-être pas thématisé à mes yeux suffisamment, mais il a parfaitement saisi les limites de la réciprocité. Et il les a saisies dans la mesure où, s'il ne fait pas déboucher nécessairement la réciprocité, et bien j'y reviendrai, c'est pas sûr, dans la totalité, comme son objectif final, il fait reposer la réciprocité sur une unité qui est celle de l'individu, et il le souhaite de chaque individu, dans la mesure où l'individu affirme l'autre comme porteur de la relation entre lui-même et moi. Selon Romain Arnoux, la réciprocité n'est possible que portée par l'affirmation d'une unité qui la fonde, et cette affirmation de l'unité, c'est celle par laquelle chaque homme affirme d'abord, avant de s'affirmer lui-même, l'autre avec lequel il est en contact. Vous dites bien, je crois, mais si je fais erreur, dites-le-moi, que dans la relation du souci de soi et du souci de l'autre, le moment qui porte cette relation, qui porte cette réciprocité, c'est l'autre à travers le souci prioritaire que j'ai de lui par rapport à moi. Et c'est ce que Romain Arnoux explique lorsqu'il dit que la réciprocité est toujours portée par la générosité de chacun des êtres qui entrent en réciprocité dans la mesure où chacun de ces êtres affirme d'abord l'autre avant de s'affirmer lui-même. Donc, vous voyez, c'est une philosophie de la réciprocité, mais saisie dans sa limite, et d'abord dans sa limite originaire, à savoir que dans la relation entre deux individus ou plusieurs individus, la réciprocité n'est véritable que si chacun d'eux ne s'affirme pas vraiment égal à l'autre, mais s'affirme au service de l'autre, s'affirme le serviteur de l'autre. La générosité, me semble-t-il, porte pour vous la relation réciproque. Parce que la réciprocité, c'est une catégorie dans notre époque, je le redis, raffole. La réciprocité, A affirme B dans la mesure où B affirme A. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Il faut que un ou que chacun, c'est l'idéal, porte toute la relation. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire affirmer dans la relation entre lui et l'autre la priorité de l'autre. Vous voyez, l'altruisme porte la réciprocité. La générosité porte la réciprocité. Et ça veut dire que l'un, et chacun est un, l'un porte l'unification des deux. Vous voyez, et que ce qui est à l'origine est aussi au terme, parce que, et c'est là que je mets un bémol sur l'apparente réserve que je faisais il y a un instant, la réciprocité pour Romain Arnoux, elle débouche sur une unité plus haute qu'elle-même, qui constitue l'humanité en un tout, de telle sorte que l'unification qu'est la réciprocité est un entre-deux, entre l'un qui s'affirme originairement et chacun s'affirme originairement comme un, et l'unité totale ou la totalité dans laquelle la réciprocité doit déboucher. Pourquoi? Parce que l'affirmation de l'autre par moi, tel que je m'efface devant l'autre et que je me fais celui qui prend l'autre sous sa responsabilité, celui qui répond de l'autre. Cette responsabilité exige donc ainsi nécessairement, voyez, un dépassement originel et final de soi. Et en direction non pas de plusieurs individus, ou d'une multiplicité, ou de la multiplicité des individus, mais de la totalité que les autres forment, en unité avec l'ensemble des choses qui constituent la nature ou le monde. Ce que Arnoux veut promouvoir, c'est ce sentiment d'une responsabilité par chacun de l'ensemble des autres et des choses, c'est-à-dire de ce que nous appelons le monde dans tous ses aspects. Il invite à prendre une claire conscience de cette responsabilité totale qui est la nôtre, qui incombe à chacun. Prendre la responsabilité du monde tout entier, depuis son socle naturel à son apogée spirituel. Se sentir responsable de la nature, assumer les problèmes écologiques, se sentir responsable plus que de l'humanité totale existante, de l'humanité totale à venir, se sentir responsable de l'humanité à venir et pas simplement de l'humanité présente, en assumant toutes les virtualités qui étaient celles de l'humanité passée. Voyez, il incite les hommes à prendre conscience que leur responsabilité n'est pas une responsabilité limitée, mais qu'en soi, elle est une responsabilité totale. Ça ne veut pas dire je suis responsable de la même façon et selon la même intensité de mes proches immédiats et de ceux qui sont plus lointains, mais je dois me sentir responsable de la totalité à venir, aussi bien que présente et passée, du monde dans lequel je vis. La responsabilité est donc une responsabilité en quelque sorte universelle. Et c'est, je crois, là, une vision humaniste et plus qu'humaniste, parce que la nature est elle-même engagée dans la mesure où elle est non seulement ce dont vivent les hommes, mais ce par quoi ils vivent, aussi transformée qu'elle puisse être par eux, d'où tous les problèmes qui sont posés, les problèmes les plus divers, comme celui d'un transhumanisme, etc., comme celui qui est impliqué dans la question de savoir à quelles conditions l'accomplissement de l'homme ou l'accroissement, comme on dit, de l'homme sont-ils compatibles avec la persistance de ce qu'on appelle l'homme. Il y a une mesure de l'homme. Il y a une mesure de l'homme et si cette mesure ne doit pas empêcher la progression la plus accomplie, la plus riche, de l'existence et de la coexistence humaine, elle doit veiller, bien sûr, à la prudence nécessaire, s'intéresser à la précaution nécessaire pour que la progression de l'humanité reste celle d'une humanité proprement humaine et ne court pas le risque de voir, enfin, l'humanité disparaître dans ce dont on ne saurait pas exactement ce qu'elle peut devenir. Alors, j'apprécie tout cela. C'est une philosophie très riche de la responsabilité, de la co-responsabilité universelle des hommes. Je pourrais ajouter encore beaucoup de choses, mais j'ai déjà parlé trop longuement. Je voulais dire combien c'est une perspective stimulatrice qui nous est proposé. Il attend beaucoup de l'homme, mais l'homme étant plus grand que lui-même, je crois que c'est une perspective qui doit être saluée, bien entendu à condition qu'elle n'oublie pas qu'elle doit rester à l'intérieur de la mesure, pour autant quand même qu'on peut déjà la définir par des caractères essentiels, respect de la mesure de l'humanité pour que celle-ci reste humaine tout en se perfectionnant, s'améliorant, comme les hommes des Lumières en particulier l'avaient vu. En tout cas, nous avons affaire à une philosophie, je termine par où j'avais commencé, qui est une philosophie de l'union, de la réunion, de la réalité et de l'idéalité, de la nature et de la norme. C'est une philosophie qui se reconnaît à la fin du livre qui a été l'occasion de cette réunion, qui se reconnaît dans la perspective qu'a définie au tout début de la philosophie, Aristote. Aristote, l'homme de la synthèse, avant les grandes déchirures, et d'abord la déchirure platonicienne, qui sépare le monde d'ici-bas et puis le monde des idées. Aristote est le penseur de l'unité de l'homme dans tous ses moments constituants, l'unité de la nature et de l'idéalité, l'unité de la morale et de la vie, philosophie donc de l'unité de l'humanité dans elle-même, avec elle-même, et je ne peux que saluer cet aristotélisme qui s'affirme non pas dans l'abstraction, mais à travers l'étude de l'existence humaine dans ses aspects les plus concrets, car c'est un des mérites de votre ouvrage. Vous ne faites pas une nouvelle métaphysique, une morale de la responsabilité, vous l'étudiez au ras d'elle-même parce qu'elle est native en l'homme comme un sentiment qui doit être développé et cultivé dans tous les aspects concrets de l'existence humaine, dans la famille, dans l'entreprise, dans les organisations, dans la vie politique. Vous efforcez d'actualiser ce problème de la responsabilité comme co-responsabilité universelle, donc dans les aspects les plus actuels, les plus divers, les plus curieux de la coexistence humaine. C'est une philosophie au ras du concret, au cœur du concret, et c'est pourquoi, en vous lisant, on ne fait pas que se cultiver, mais on s'arme pour mieux réagir aux situations dans lesquelles la vie nous précipite. Et ce faisant, votre ouvrage est un ouvrage qui est un adjuvant pour une existence responsable mais engagée dans la situation qui est celle de l'homme contemporain. Vous avez donc ma bénédiction et je souhaite le plus grand nombre possible de lecteurs à votre ouvrage.